Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Sainte Église aujourd'hui, en ce troisième dimanche après l'Épiphanie, va insister sur la vertu de miséricorde de notre Seigneur, le pardon. On le voit avec deux exemples dans les évangiles d'aujourd'hui, à savoir d'abord ce lépreux qui vient vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui demande à être soigné. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui répond, je le veux, soyez guéri. Mais il l'envoie au prêtre. Immédiatement après, allez voir le prêtre. Pourtant, c'était les prêtres de l'Ancien Testament qui n'avaient aucun pouvoir. Pratiquement aucun pouvoir. Et ensuite, deuxième exemple, le serviteur du centurion. Ce centurion avait un serviteur qui était paralysé. Et il va lui-même trouver notre Seigneur pour son serviteur, demandant la guérison. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi va le guérir. Et je vous l'ai déjà expliqué souvent, toutes ces maladies que notre Seigneur Jésus-Christ va soigner, ces maladies corporelles, évidemment, tous les pères de l'Église sont d'accord là-dessus, symbolisent des maladies spirituelles. Des maladies spirituelles beaucoup plus graves, à savoir la maladie de l'âme. Donc, la lèpre représente le péché en général, parce que c'est quelque chose qui grignote littéralement en profondeur, d'abord les muscles, puis les os eux-mêmes, provoquant des déformations terribles. Déformations terribles avant de provoquer la mort d'un individu qui porte la lèpre. Et donc, la lèpre représente le péché mortel en général. Quant à la paralysie représente la sédie, ce dégoût des choses divines, cette paresse des choses divines. C'est un signe sur lequel il faut porter une grande attention, mes bien chers frères. Quand on commence à être fatigué de prier, fatigué de se confesser, fatigué de remplir son devoir d'État. Au début, tout est beau, tout est mignon, tout est facile. Et puis après, petit à petit, les choses deviennent plus complexes. Et cette paralysie représente la difficulté de se lever pour aller se mettre à genoux au pied du prêtre et dire « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Vous voyez, ces deux exemples représentent la miséricorde du bon Dieu. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient et pensent, la miséricorde est quelque chose de beaucoup plus difficile à comprendre que la justice. Les gens comprennent parfaitement qu'une personne qui refuse l'autorité de son Créateur, de son Rédempteur, qui vit dans le péché jusqu'au cou, soit punie par l'enfer, ça, les catholiques comprennent ces choses-là. Mais la miséricorde, que notre Seigneur Jésus-Christ soit capable de pardonner au pire des pécheurs et de donner le paradis à quelqu'un qui se convertit à la fumée des cierges, littéralement, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Donc il est plus difficile de comprendre la miséricorde que de comprendre ce qu'est la justice. La justice, c'est facile à comprendre, la miséricorde, c'est plus compliqué. Donc il faut demander au bon Dieu cette grâce de comprendre ce qu'est la miséricorde. Notre Seigneur Jésus-Christ, tous les pères l'expliquent, notre Seigneur Jésus-Christ a plus de gloire de pardonner les péchés que de créer le ciel et la terre. Il y a plus de gloire accidentelle augmentée par le pardon d'un pécheur que par la création du ciel et de la terre. Et certains saints vont même jusqu'à dire que la conversion d'un pécheur, un gros pécheur par exemple juste avant sa mort, est un miracle plus grand qui amène plus de gloire accidentelle à notre Seigneur Jésus-Christ que la création du ciel et de la terre tout entière. Vous voyez, il faut absolument arriver à réaliser cela. Au séminaire, Mgr Lefebvre nous a souvent dit qu'il pensait que un des crimes de l'esprit de Vatican II, de l'Église de Vatican II, c'était la destruction de la justice par la destruction du don de crainte de Dieu. C'est vrai. Mais je pense de plus en plus que le crime numéro un de l'Église de Vatican II, de l'Esprit de Vatican II, il faut appeler ça comme ça, c'est la destruction de la miséricorde. C'est bien plus grave, à mon avis, de détruire la miséricorde que de détruire la justice. Évidemment, il n'y a rien entre les deux. Il n'y a pas de justice sans miséricorde, il n'y a pas de miséricorde sans justice. Donc il faut considérer comme les deux mains, si vous voulez, les deux mains d'un même corps. Une justice sans miséricorde peut devenir la cruauté facilement. Une miséricorde sans justice va devenir la faiblesse. Donc il y a chez notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu, il y a chez Dieu, en Dieu, une parfaite miséricorde et une parfaite justice, il y a les deux. Mais je pense que le crime des crimes, c'est d'empêcher la miséricorde de Dieu de s'appliquer aux âmes. Et pour moi, c'est ça le crime de l'Église de Vatican II. D'empêcher volontairement de s'arranger pour que Dieu ne puisse plus exercer sa miséricorde. Ça vous semble bizarre ce que je vais vous dire, mais écoutez bien, parce que ça me semble extrêmement important à comprendre. Pour que la miséricorde de Dieu puisse s'appliquer sur un homme, quelle est la condition? Il faut ouvrir la porte, pardi. Il faut que la porte de l'âme soit ouverte à cette miséricorde. C'est pour cela que même une âme dans le péché mortel, Dieu va donner des grâces spéciales qu'on appelle des grâces actuelles pour permettre l'ouverture de cette miséricorde. Et pour que la miséricorde puisse s'appliquer, la miséricorde, c'est quoi? C'est le pardon. Dieu qui pardonne à la personne qui l'a offensé. Pour que ce pardon puisse s'exercer, quelle est la condition? Que le pécheur regrette son péché, c'est absolument évident. Ce qu'on appelle la contrition. Donc si un pécheur n'a pas de contrition, Dieu ne peut pas exercer sa miséricorde. Il peut donner des grâces spéciales, des grâces actuelles spéciales, pour que ce pécheur puisse justement commencer à avoir au moins une contrition imparfaite, regretter ses péchés par peur de l'enfer, et même arriver à la contrition parfaite, regretter ses péchés par amour du bon Dieu, pour que la miséricorde du bon Dieu puisse s'appliquer. Mais le bon Dieu ne peut pas appliquer sa miséricorde à quelqu'un qui refuse catégoriquement de regretter ses péchés. Et c'est là où intervient justement ce que j'essaie de vous faire comprendre. Pour moi, le crime de Vatican II, le crime de l'Église de Vatican II, l'esprit de Vatican II, c'est justement d'avoir fait croire aux gens, et ça c'est partout dans le monde entier malheureusement, d'avoir fait croire aux gens que Dieu pardonne systématiquement, qu'il n'y a pas besoin de regretter. Que Dieu est plein de bonté, et qu'il est mort sur la croix pour nous sauver tous, ce qui est vrai, et il est mort sur la croix, et par sa mort sur la croix, il efface tous les péchés, alléluia, tout le monde va au ciel, il n'a pas besoin de se convertir. Plus besoin de regretter ses péchés. Et en disant aux gens, parce que ça je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, en disant aux gens, vous n'avez pas besoin de vous convertir, on ferme la porte à la miséricorde. Dieu ne peut plus pardonner parce qu'il n'y a pas de regret. Vous voyez, donc il faut comprendre ces choses-là, mes bien chers frères, et réaliser à quel point cette miséricorde est importante. Et qui est celui qui a dit que Dieu était mort sur la croix pour chacun d'entre nous, et que donc par sa mort sur la croix, il avait effacé tous les péchés. Et ce grand hérétique était allé jusqu'à dire, puisque Dieu est mort sur la croix pour nous effacer tous nos péchés, il suffit de croire en lui. Croyez fortement et péchez plus fortement encore. Vivez dans le péché jusqu'au cou, pas de problème, Dieu est mort pour nous sur la croix, alléluia. C'est Luther, c'est le protestantisme. Et l'esprit de Vatican II est un esprit purement protestant, c'est pur et simple. Ça se voit tout de suite quand on étudie un petit peu, quand on parle un peu avec tous ces prêtres. C'est pour ça que beaucoup de prêtres modernes, quand on leur parle, ils ne confessent pratiquement plus. Sauf encore quelques vieux prêtres qui ont encore conservé la foi, Deo gratias. Mais les prêtres de l'Église de Vatican II reconnaissent qu'ils ne confessent pratiquement plus. Une des choses qu'ils préparent pour le synode 2023, au mois d'octobre, c'est ça, c'est la suppression pure et simple de la confession. Pourquoi il commence à parler déjà maintenant de la suppression pure et simple de la confession auriculaire? Parce qu'il ne confesse plus, justement. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, nous a tous sauvés, il n'y a plus besoin de se confesser. Or, la confession reste le moyen normal pour que Dieu puisse exercer sa miséricorde sur une âme. Bien sûr, Dieu peut passer au-dessus des sacrements. Dieu peut donner la grâce de conversion sans la confession, c'est évident. Et lorsque vous regardez un petit peu le catéchisme du Concile de Trente, vous verrez par vous-même, vous serez surpris de voir à quel point justement le concile, le catéchisme du Concile de Trente, qui est le catéchisme officiel de l'Église catholique, à quel point ce catéchisme insiste justement sur la contrition. La contrition, c'est quoi? C'est le regret de ses péchés avec le ferme propos. Le catéchisme utilise deux mots, douleur du péché commis, et ferme propos de ne plus le recommencer. Donc, douleur de ce que j'ai fait, et prendre des décisions pratiques pour, avec la grâce du bon Dieu, ne pas recommencer. Si je n'ai pas ces deux éléments, le catéchisme du Concile de Trente explique très bien, si je n'ai pas ces deux éléments, il n'y a pas de contrition. S'il n'y a pas de contrition, le pardon est impossible, Dieu ne peut pas exercer sa miséricorde. Et il ne faut pas oublier ces choses-là. Et le catéchisme du Concile de Trente a de longues pages, justement, sur la nécessité de la contrition. D'abord, il parle d'une douleur. Une douleur qui doit être interne, qui doit être surnaturelle, qui doit être universelle et qui doit être suprême. La plus importante de ces conditions, la douleur doit être surnaturelle, attention. À savoir que si je regrette mes péchés pour des raisons purement naturelles, la condition vaut rien. Le minimum, c'est regretter ses péchés par peur de l'enfer. Parce que si je regrette mes péchés par peur de l'enfer, c'est déjà la porte ouverte, évidemment, à l'union à notre Seigneur Jésus-Christ par la charité. Donc il faut d'abord cette douleur. S'il n'y a pas cette douleur, on ne peut rien faire. Et la douleur ne suffit pas, attention. Le catéchisme explique bien, avec cette douleur, il faut ajouter le ferme propos de ne pas recommencer. Dans la pratique, ça veut dire quoi? D'éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Donc, si je garde dans ma vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché grave, même si j'accuse tous mes péchés, même si je prétends avoir de la douleur pour mes péchés, le bon Dieu ne peut pas appliquer sa miséricorde parce qu'il y a une des portes qui n'est pas ouverte. Il faut ouvrir la porte par la douleur, il faut ouvrir la porte par le ferme propos de ne pas recommencer. Et 9 fois sur 10, l'expérience sacerdotale qui le montre, 9 fois sur 10, quand un prêtre se rend compte qu'il ne peut pas donner l'absolution, c'est parce que la personne garde une occasion prochaine volontaire de péché grave. Vous voyez? Quand on voit, par exemple, c'est ahurissant, mais c'est pour vous donner un exemple jusqu'où on va actuellement. Il y a une déclaration il n'y a pas longtemps de Bergoglio à Rome, François à Rome, qui disait qu'un prêtre n'a jamais le droit de refuser l'absolution. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il est allé jusqu'à dire ça. Un prêtre ne doit jamais, jamais refuser l'absolution confessionnelle. Mais on va où comme ça? Un monsieur arrive pour me dire, monsieur l'abbé, je vous aime bien, j'aime beaucoup le bon Dieu, mais je vis avec trois bonnes femmes en même temps. Et puis, on vit en concubinage, tout se passe très bien. Je regrette bien tous mes péchés. Est-ce que vous pouvez me donner absolution, s'il vous plaît? Non, mais attendez, il faut peut-être régler un peu les problèmes d'abord. Ah, monsieur l'abbé, je viens de voler 3 000 euros dans la poche du voisin. Tout va très bien, je regrette bien mes péchés. Est-ce que vous me donnez absolution, s'il vous plaît? Et ces 3 000 euros, ils sont où? Ah, ils sont là, bien au chaud dans ma poche. Vous allez les rendre? Ah, bah non, pas question. C'est évident, dans un cas comme ça, si je donne l'absolution, on transforme la confession en une gigantesque fumisterie. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'absolument absolument fondamental à comprendre. Première chose, c'est la contrition. Et attention, une deuxième chose à pas oublier. Hein. Est-ce que vous avez besoin de la présence du prêtre pour avoir la contrition? Non. La contrition, il faut que vous l'ayez avant de rentrer au confessionnal. Vous avez besoin de la présence du prêtre pour exercer, que le prêtre puisse exercer la deuxième chose qui est nécessaire pour qu'il y ait une confession. D'abord la contrition, après l'accusation. Ça c'est vous prêtre. On voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui que notre Seigneur va envoyer le lépreux, bien qu'il l'ait déjà guéri, il va l'envoyer quand même au prêtre pour bien montrer l'importance du sacerdoce. Mais vous devez arriver au confessionnal avec déjà dans votre petit panier, déjà la contrition de vos péchés. Bon, si la contrition n'est pas là, c'est le travail du prêtre d'exciter la contrition pour que cette personne ait un degré de contrition minimale, qu'on appelle la contrition imparfaite, au regret des péchés par peur de l'enfer, avant de pouvoir se confesser. Et si la contrition n'est pas encore là, il peut arriver, ça m'est arrivé, après de dire, écoutez, revenez voir dans une semaine, mais là, vous n'êtes pas encore prêt. Préparez-vous, et puis vous reviendrez quand vous serez prêt à vous confesser. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, il y a l'accusation. Donc, pour la contrition, pas besoin du prêtre. Pour l'accusation qui précède la réception de l'absolution impérativement du prêtre. Ça, c'est la deuxième partie, l'accusation, en expliquant l'espèce, en expliquant le nombre, les circonstances, pour que le prêtre comprenne bien ce que vous avez fait. Et ensuite, la réparation peut se faire sans le prêtre. Mais si contrition et réparation peuvent se faire sans le prêtre, si vous avez volé quelque chose, par exemple, pas besoin de la présence du prêtre pour rendre le produit de votre vol à la personne que vous avez volé. C'est absolument évident. Vous voyez? Mais on voit très bien ici comment il est absolument capital, absolument fondamental, justement, d'augmenter en nous la contrition. Et je pense qu'il n'y a pas de crime supérieur que de détruire dans l'âme d'un fidèle l'idée même de contrition. Continuez à pécher, le bon Dieu vous aime. Il n'y a rien de pire. C'est littéralement un suicide spirituel. C'est un assassinat d'âme. Les prêtres qui disent ça, et j'ai entendu des cas comme ça, des dizaines et des dizaines de fois. Vous-même, vous avez entendu des tas de cas comme ça. Les gens qui vivent, par exemple, dans le concubinage, qui vont voir le prêtre, par exemple, pour se préparer au mariage, ils ont des cas, j'en ai eu je ne sais pas combien, et puis le prêtre moderne qui leur dit, restez comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous marier. Restez comme ça tranquillement, et puis dans quelques années, on verra tout ça. Je vous dirai une petite bénédiction pour le concubinage, quand même, pour vous faire plaisir. Mais restez tranquillement comme ça, on verra à rétablir, régulariser les choses plus tard. Enfin, vous serez sûr de vous. C'est de l'assassinat. Des prêtres comme ça sont des assassins. Ils méritent la corde au cou. Ce sont des assassins qui détruisent les âmes. C'est exactement ça. Quand François dit à Rome, qui suis-je pour juger un homosexuel, c'est un assassin. Parce qu'en disant des choses comme ça, il dit aux gens, mais continuez, moi je ne peux pas vous juger. Il a déjà ouvert un catéchisme dans sa vie, ce monsieur. S'il avait ouvert son catéchisme, il saurait que la sodomie est classée parmi les péchés qui crient vengeance contre le ciel. C'est pas un jugement, ça. Dieu a déjà jugé. S'il a oublié le jugement, qu'il nous impose, l'épître aux Romains, premier chapitre, deuxième partie du premier chapitre de l'épître aux Romains. Ça leur mettrait un petit peu peut-être la foi catholique dans la tête. Et c'est capital, toutes ces choses-là. C'est pour ça que les gens vivent dans le péché. Les gens vivent dans le péché, je ne dis pas tous, heureusement. Les gens vivent dans le péché parce que l'Église moderne a fermé la porte de la contrition, en faisant croire aux fidèles que la contrition n'est plus nécessaire. Et Dieu ne peut plus exercer sa miséricorde. Vous voyez, on le voit très bien, je vous en ai déjà un petit peu parlé avec certains changements. Je vous ai donné l'exemple pour Noël, la parole des anges. Les anges qui viennent adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui chantent le Gloria, Gloria in excelsis Deo, Pax hominibus bonae voluntatis. Paix à tous les hommes sur la terre, à tous les hommes de bonne volonté. Traduction moderne, paix à tous les hommes. Paix à tous les hommes. Mais non, ce n'est pas paix à tous les hommes, c'est paix à tous les hommes de bonne volonté. Ça veut dire quoi? Aux hommes qui cherchent Dieu, pardi. Et on le voit très bien, les exemples comme ça, on pourra en donner des tonnes. Il y a des dizaines et des dizaines. Combien de fois j'ai entendu des prêtres modernes parler, par exemple, de la conversion de Sainte Marie-Madeleine. Regardez, la Sainte Marie-Madeleine arrive, elle est considérée comme pécheresse, et qu'est-ce que dit notre Seigneur? Rien, va en paix. Ils ont oublié un petit détail qui suit le va en paix. Va en paix et ne pêche plus. Il y a la contrition. C'est pour ça que notre Seigneur peut pardonner. Mais si la Sainte Marie-Madeleine, qui n'était pas encore Sainte Marie-Madeleine à l'époque, avait décidé, ah, oh, je peux l'en paix, je garde mes 6 ou 7 Marie, et on continue comme avant. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des exemples extraordinaires, justement, pour bien montrer que la miséricorde du bon Dieu peut s'appliquer jusqu'à la fumée des cierges. Peut-être un des plus beaux exemples qui est connu, c'est l'exemple de Saint Dismas, le bon larron. Celui-là, il a attendu la fumée des cierges, c'est moins qu'on puisse dire. Il n'a rien changé de sa vie, il n'a pas eu le temps. C'est un bandit qui a fait que de l'enfance de Dieu pendant toute sa vie. Juste avant de mourir, il se tourne vers notre Seigneur et fait un acte de foi, d'espérance et de charité avec une grâce incroyable qu'il a reçue de la Sainte Vierge, par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Souvenez-vous de moi quand vous serez au paradis. Vous auriez fait vous. Quand j'explique ça aux enfants du catéchisme, ils disent, Monsieur la Vierge, on va commencer par l'envoyer 3 siècles au purgatoire, on verra après. Ben, c'est pas ce que fait notre Seigneur. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le Seigneur pardonne. Il voit que la porte de la miséricorde peut s'ouvrir parce qu'il y a la contrition. Parce qu'en disant cette phrase, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, il y a la contrition. C'est un acte de foi, d'espérance, de charité. Ceci doit nous entraîner, mais nous aider, mes frères, à ne jamais, jamais, jamais se décourager. Et j'allais rechercher un troisième exemple qui est beaucoup moins connu. Je vais vous le donner pour vous montrer jusqu'où va la miséricorde. C'est un des exemples les plus ahurissants qu'on peut trouver dans la géographie des saints, la vie des saints. Il est peu connu. C'est l'exemple de Saint Jacques d'Égypte. J'ai fait une erreur, je pense, déjà dans d'autres sermons ou d'autres conférences, je pensais que c'était Saint Thomas, mais j'ai vérifié, c'est Saint Jacques d'Égypte. Sa fête est au 28 janvier, donc cette semaine. Il n'est pas à l'Église universelle, mais il est canonisé par l'Église. Saint Jacques d'Égypte, un moine d'Égypte. Sa vie est extraordinaire. Pour ceux qui sont intéressés par les vies de saints, je vous conseille beaucoup de mettre la main. C'est sur Internet. Si vous allez sur le site liberius.net, vous l'avez en PDF gratuitement. La fleur des saints de Riba da Nahira. Riba da Nahira était un des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola. C'était pas tout à fait du début, la première équipe de 6 ou 7. Mais la deuxième équipe, il y avait, qui a rejoint juste après la fondation, l'ordre des Jésuites, qui a rejoint Saint Ignace, il y avait Riba da Nahira. Ribera d'Anaïra a écrit des vies de saints magnifiques. Il y a une dizaine de volumes ou 12 volumes, et ça se lit comme un roman. Je vous conseille beaucoup ces vies de saints qui sont splendides, qui s'appellent La Fleur des Saints. Je crois que c'était réédité aussi par les éditions Saint-Rémy. Je vous conseille beaucoup ce livre. Et je suis allé rechercher justement la vie de Saint Jacques d'Égypte. Je l'ai légèrement résumé, parce que je ne veux pas prendre trop votre temps, mais je vous donne cet exemple pour vous montrer jusqu'où peut aller la folie d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous. Voilà ce que c'est le texte de Riba d'Aneira. Saint Jacques. Je vous lis là, c'est très légèrement résumé. Saint Jacques, surnommé l'ermite, fut d'abord un homme de vie admirable. Puis entraîné par les séductions du monde, il devint malheureux et misérable. Relevé enfin par la grâce de Dieu, il donna un rare exemple de la plus austère pénitence. Dans la force de la jeunesse, pour vaincre le monde, il s'enferma dans une caverne et y vécut 15 ans. Si vigoureux contre ses passions, si saint, si mortifié, que Dieu le rendit célèbre par beaucoup de miracles. Il chassait les démons du corps des énergumènes, guérissait les malades, si bien que les chrétiens couraient à lui de toutes les provinces voisines de la Palestine et que les païens et les samaritains se convertissaient à notre Seigneur en entendant parler. Le tyran des enfers, enragé de voir les merveilles du saint, résolut de le perdre. Il suscita un samaritain qui fit dessein avec ses parents et ses amis de le chasser de leur province. Ils trouvèrent une courtisane à laquelle ils donnèrent 20 pièces d'or, lui en promettant autant si elle parvenait à gagner l'ermite. Cette fille se rendit de nuit à sa cellule et frappa à la porte, disant qu'elle était religieuse d'un monastère voisin, que lui, de peur d'être que son abbesse l'avait renvoyée, elle l'avait envoyée dans un bourg assez proche, mais que la nuit l'ayant surprise, elle venait se retirer auprès de lui de peur d'être la proie des bêtes féroces. L'ermite hésita longtemps, il craignait quelques ruses de l'enfer, et ferma d'abord sa porte avec violence. Mais la nuit était affreuse. Cette femme criait et pleurait, suppliant l'ermite de ne point la laisser dévorer. Enfin, vaincu par ses prières et par la crainte qu'il ne lui arrive à malheur, il ouvrit la porte, lui donna du pain et de l'eau, et la laissa dans la partie la plus reculée de sa cellule. Lui-même se retira dans une autre partie et ferma la porte. Enfin, vaincu par ses prières et par la crainte qu'il ne lui arrive à malheur, il ouvrit la porte, lui donna du pain et de l'eau et la laissa dans la partie la plus reculée de sa cellule. Bon. La femme prit du pain, but un peu d'eau et parut se disposer à dormir. Mais peu après, elle se lamente, se traîne vers la porte et demande secours en poussant des gémissements. L'ermite en trouve le guichet, il la voit étendue par terre et l'entend qui lui disait « Fortifiez-moi, je vous prie, du signe de la croix, car je meurs de douleur. » Saint Jacques, touché de pitié, allume un grand feu, prend de l'huile bénite et sur sa demande lui fait quelques onctions sur les membres souffrants dans l'espérance de la soulager. Et pendant que, de la main droite, il accomplissait cette œuvre de charité, il tenait sa main gauche exposée à un feu si ardent que l'extrémité des doigts fut réduite en cendres. Quand cette malheureuse femme vit tout tomber à terre ses lambeaux de chair carbonisée, épouvantée de ce courage, touchée par la grâce, elle avoua tout au saint ermite, qui remercia Dieu de l'avoir reconnu, secouru en un si grand danger. Il envoya cette femme à l'évêque saint Alexandre, qui la reçut avec bonté, la confessa et la plaça dans une retraite où elle mourut saintement. Il chassa ensuite de son diocèse les Samaritains auteurs de cette perfidie. Alla voir le saint ermite et le félicita de ce grand courage, l'exhortant à persévérer. Ça, c'est pour vous donner un peu une idée du genre de gaillard qu'était ce saint Jacques. Deuxième partie, écoutez bien. Le démon entra alors dans le corps de la fille d'un ermite et le félicita de son grand courage. Entra alors dans le corps de la fille d'un homme très puissant de ce pays. Le père l'amena vers Saint Jacques, qui la guérit par ses prières, et lui offrit par reconnaissance 300 pièces d'or. Le saint les refusa, disant qu'il n'avait pas besoin d'argent dans un désert. Il guérit encore un paralytique, un boiteux et beaucoup d'autres malades. Comme on lui rendait de grands honneurs, pour éviter l'orgueil, il résolut de se retirer plus avant dans le désert, et il trouva auprès d'un fleuve une grotte assez grande. Il demeura 30 ans dans une prière continuelle, ne vivant que des herbes qui poussaient sur le bord du fleuve, jusqu'à ce qu'il se fût planté un petit jardin. Sa vie était admirable, si admirable que les gens du monde et les religieux de 20 ou 30 monastères accouraient pour l'entendre et recevoir sa bénédiction. Mais, ô inconstance et fragilité du cœur humain, cet homme si grand, si glorieux, ce glorieux vainqueur de l'enfer, ce triomphateur du démon, cet homme de pénitence qui avait tout jeune triomphé de la chair, brûlé sa main gauche plutôt que de succomber au feu de la concupiscence, ce vieillard aux cheveux, blanchi dans la solitude et le service de Dieu, se laissa vaincre misérablement, probablement à cause de quelques complaisances secrètes, pour cet orgueil qui abat les cèdres du Liban et change en animaux immondes pour qu'ils se reconnaissent et s'humilient ces anges dont le vol dépassait les plus hautes étoiles des cieux. Le démon s'étant emparé de la fille d'un prince fort riche et disait qu'il ne pouvait être chassé que par l'ermite Jacques. Les parents, inquiets de la santé de leur fils, s'informèrent du lieu où pouvait demeurer cet ermite. Et l'ayant appris, ils la lui conduisirent. Saint Jacques la guérit en effet par ses prières. Mais les parents, pour mieux affermir cette guérison, lui demandèrent de vouloir bien garder leur fille 2 jours encore avec lui dans sa cellule. Le saint y consentit témérairement, car c'était une ruse du démon, qui allait lui rendre en une seule fois toutes les peines qu'il lui avait fait endurer pendant tant d'années. En effet, quand il le vit seul avec cette fille dans le désert, Asmodée alluma dans son cœur une flamme si ardente qu'oubliant les victoires de sa jeunesse, il céda lâchement et pour cacher son crime, jeta dans le fleuve le corps de la malheureuse jeune fille. La totale. Péché grave d'impureté avec la jeune fille, péché scandale, péché de contre la vertu de religion, puisqu'il est religieux, meurtre. On ne peut pas descendre plus bas. Écoutez la troisième partie. Hélas, qui se fiera à ses triomphes passés? Qui ne sera pas effrayé de ce terrible exemple? Qui n'avouera pas sa fragilité et se laissera aller aux occasions? Qui osera avoir confiance en ses cheveux blancs? Qui ne comprendra qu'un crime en attire beaucoup d'autres si on ne se relève aussitôt par le sacrement de pénitence? Voilà ce que nous apprend la chute déplorable de ce saint ermite et combien nous sommes faibles quand Dieu retire le bras qui nous soutient. Ayant donc résolu d'abandonner le service de Dieu et de se livrer au monde, il quitta sa cellule et dans son voyage passa par hasard auprès d'un monastère. On le reçut avec un grand bonheur et un grand respect. Les moines lui lavèrent les pieds et l'entourèrent d'égards, ravis de posséder un homme si saint. Mais lui n'osait lever les yeux de dessus terre, il se déchirait la poitrine et avouait ses péchés. Il rencontra en sortant du monastère un grand serviteur de Dieu qui le contraignit d'entrer dans sa cellule pour prendre un peu de nourriture et réparer ses forces. Jacques lui avoua son crime. L'autre l'encouragea et lui dit de se confier en la bonté de Dieu, qu'il pardonnait au cœur pénitent. Et il cita l'exemple de David, de Saint-Pierre et de tant d'autres. Saint-Jacques le quitta ensuite, mais sans avoir renoncé à ses mauvais desseins. Mais un peu plus loin, il rencontra un tombeau creusé dans une caverne et tout rempli d'ossements que les siècles avaient presque réduits en cendres. C'est là que l'attendait la grâce et la miséricorde de Dieu. Une inspiration le saisit, il entre dans ce tombeau, range les ossements dans un coin, enferme la porte et se jetant à terre, il s'écrie « Seigneur, comment oserais-je jamais lever les yeux vers vous? Comment oserais-je vous parler avec cette langue impie et ces lèvres toutes souillées? Aurais-je bien le courage de vous demander pardon? Oui, pardon. Mille fois pardon. Très doux Seigneur, ne me perdez pas, mon Dieu, malgré mes crimes et ne m'ensevelissez pas dans mon indignité. » Hélas, elle est bien grande, bien abominable. J'ai cédé à l'impureté, j'ai commis un meurtre, j'ai versé le sang innocent, j'ai abandonné le malheureux cadavre aux eaux, aux bêtes féroces et aux oiseaux de proie. Vous savez tout, ô mon Dieu. Cependant, je l'avoue, pour que vous me pardonniez, ne me méprisez pas, Seigneur, ne méprisez pas ma prière. N'écoutez que votre miséricorde et votre tendre charité pour les pécheurs. Ayez pitié de moi qui suis un misérable et un impie. Enveloppez-moi de votre miséricorde. Pardonnez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi, mon Dieu. Ne me laissez pas tomber dans cet abîme de péché qui s'ouvre devant moi. Sauvez-moi des serres cruelles de mon ennemi. Arrachez-moi de la gueule du serpent infernal. Et il passa 10 ans dans ce sépulcre, pleurant, jeûnant, ne parlant à personne. 2 fois la semaine seulement, il arrachait quelques herbes qu'il mangeait pour ne point mourir de faim. Jour et nuit, il tourmentait son corps avec un si vif repentir qu'il expia enfin ses péchés. Dieu voulut lui en donner la preuve et lui montrer que ses larmes avaient éteint sa colère. Il envoya une si grande sécheresse dans cette province que les hommes périssant çà et là, résolurent de se convertir à Dieu qui les châtiait avec tant de rigueur. Ils firent des processions, instituèrent des jeûnes. Dieu alors révéla à un saint évêque de ce pays qui avait dans un sépulcre un homme d'une apparence misérable mais qui était son fidèle serviteur, Jacques, et qu'il accorderait à son mérite et à ses prières ce qu'il avait refusé aux autres. L'évêque rassembla son clergé et le peuple raconta la vision qu'il avait eue et s'en alla avec eux à la recherche du tombeau où était Saint-Jacques. On eut quelque peine à le trouver, mais enfin ils y entrèrent, et se jetant aux pieds d'ermite, ils le supplièrent d'avoir pitié de leur province et de prier pour elle. Le saint refusa, en se frappant la poitrine, et on ne put arracher de lui que ces mots : Pardonnez, Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-moi toutes mes iniquités. L'évêque et le peuple, n'en pouvant tirer aucune réponse, s'en allèrent désolés. Ils continuèrent leur jeûne, et l'évêque reçut encore cet avis du ciel : Allez trouver Jacques, mon serviteur, et persuadez-le de prier pour vous. À sa demande, tous vos maux cesseront. On revint alors au sépulcre. Là, l'évêque et le clergé et le peuple, le suppliant à chaudes larmes et lui racontant la révélation de Dieu, le vainquirent enfin. Le saint ermite leva les yeux vers le Seigneur, lui offrit ses prières et aussitôt le ciel qui était d'airain s'amollit. Une pluie abondante tomba et tout le monde se mit à remercier Dieu d'un si grand bienfait. Alors les malades accoururent au sépulcre de tous les pays voisins et saint Jacques les guérissait. En cette même année, il pria l'évêque de vouloir bien le faire enterrer au lieu qu'il avait si longtemps habité. L'évêque le lui promit et peu de jours après, saint Jacques mourut. Aussitôt, l'évêque s'y transporta, accompagné du clergé et de la noblesse du pays. On embauma le corps et l'ensevelit dans le tombeau. Plus tard, on lui éleva une chapelle où furent placées ses reliques, où Dieu a fait beaucoup de miracles. Chaque année, on célèbre encore dans cette province un jour de fête en mémoire du signalé service que saint Jacques lui avait rendu. Saint Jacques, ermite, 28 janvier. À mon avis, un magnifique exemple. Il est très peu connu, c'est bien dommage. Quelqu'un qui était élevé en grande sainteté, qui est dans la profondeur de la déchéance morale, qui est relevé par la miséricorde du bon Dieu, et Dieu lui rend la grâce des miracles. Si ce n'est pas une consolation pour nous, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est certainement un des plus beaux exemples de la miséricorde infinie du bon Dieu pour le pécheur pénitent. Donc que personne ne vienne me dire, Monsieur l'abbé, c'est trop tard, j'en ai trop fait. Non. Quand les gens viennent dans mon confessionnal, ils disent, Monsieur l'abbé, je suis un grand pécheur. Qu'est-ce que je dis? Bienvenue au club. Voilà ce que je dis. Bienvenue au club. Eh bien, on est tous des pécheurs. Donc, utilisons, mes bien chers frères, cette miséricorde. Et si j'ai un petit peu de mal à cause du respect humain, à cause de mon orgueil, à cause du démon qui me chatouille, passons par la Sainte Vierge. Passons par Notre-Dame. Il n'y a pas que la très sainte Vierge Marie est vraiment la reine de la miséricorde. La miséricorde, c'est une grâce. Et comme toutes les grâces passent par elle, nous passons par la très sainte Vierge Marie pour obtenir cette miséricorde. Donc, utilisez, mes bien chers frères, cette miséricorde. Ne l'oubliez pas l'endroit où, en général, on trouve la miséricorde confessionnelle. Surtout maintenant que le bon Dieu nous envoie mon frère pour être avec moi ici, mon frère Laurent. Donc, pour être avec moi ici, vous allez avoir deux prêtres. Possibilité de vous confesser pendant la messe. Deux messes tous les jours, 10h du matin, 5h de l'après-midi. C'est des grâces énormes, ça. Qu'est-ce que vont me dire mes paroissiens qui m'écrivent depuis la Chine ou l'autre bout du monde en disant « Monsieur l'abbé, on est tout seul, on n'a rien. » Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont apprendre qu'on a deux prêtres ici? Je vais en recevoir des messages, ça va pas rater. Et je vous les lirai s'il faut. Et comment, non seulement vous en avez un, maintenant vous en avez deux? Vous ne pouvez pas nous en envoyer un? Non, je le garde ici. Voilà, je le garde ici. Ceci dit, pour ceux qui m'écoutent sur Internet, mon frère parle pas toutes les langues de la planète, mais une bonne partie. Il parle l'italien, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, le français aussi. Et donc, s'il y a des gens qui, de l'extérieur, souhaitent se confesser en une langue étrangère, ils peuvent se confesser à lui plus facilement. Moi, je parle que l'anglais et l'espagnol, c'est tout. Voilà, donc mettons tout ça entre les mains du bon Dieu, mes bien chers frères, mais n'oubliez pas une chose. Hein. Plus on soit de grâce, plus il faut donner. Plus on soit de grâce, plus il faut donner. Plus vous avez reçu de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, plus il faut donner. Maintenant, vous avez un deuxième prêtre, vous n'avez plus d'excuses. L'abbé Lafitte, il est trop dur. L'abbé Lafitte est trop exigeant. L'abbé Lafitte, il en demande beaucoup trop. Alors je vais aller à son frère parce qu'il est doux, gentil, celui-là, avec tout et tout. Très bien, très bien. Mais complètement égal. L'important, c'est que chacun puisse trouver chaussure à son pied, augmenter l'amour du bon Dieu, et qu'un jour on puisse tous se retrouver au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.